Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Jean-Marc Barreau, professeur adjoint à l'Institut des études religieuses de l'Université de Montréal. Il évoque la question soulevée par la Conférence des évêques catholiques du Canada qui déconseillait aux chrétiens d'accepter un vaccin conçu à partir de lignées cellulaires dérivées d'un avortement qui avait eu lieu en 1973, donc il y a plus de 40 ans. Plus généralement, quel est le rôle de l'éthique prise entre réserve et ingérence? Mais tout d'abord, Serge Cazelet, bibliste et historien des religions, réfléchit aux impacts qu'ont eu les diverses traductions d'œuvres littéraires des temps bibliques à nos jours. Cette question, il se la pose précisément à l'occasion de la traduction d'œuvres de la poétesse états-unienne noire Amanda Gorman. Un écrivain ne peut-il être traduit que par quelqu'un de sa race, de son sexe, de son appartenance, quel qu'il soit? Bonjour Serge.
Bonjour Jean-Philippe.
Quand on est bibliste, on est polémiste, de nos jours en tout cas.
Oui, ben, justement, c'est qu'on se pose la question étant donné que, moi je prends un exemple, l'évangile de Luc qui est attribué à quelqu'un de culture hellénique, un grec, un médecin, qui ose écrire une histoire qui concerne un personnage qui a vécu en Palestine, un personnage né dans une famille juive. Il écrit ça en grec et non pas en araméen, mais de quel droit? C'est de l'appropriation culturelle. C'est inconcevable.
Oui.
Et nous, aujourd'hui, de nos jours, on lit cette histoire qui est écrite en grec ancien, qui tire son origine d'une culture qui est totalement étrangère à la nôtre. Il y a une distance entre nous et la culture gréco-romaine. Comment peut-on encore traduire ceci et comment peut-on encore le commenter? On croirait que c'est inadmissible.
On va rappeler que Amanda Gorman est cette jeune poétesse noire qui avait composé un poème et il l'avait lu lors de l'assermentation de Joe Biden à titre de président états-unien, donc démocrate, en janvier dernier. Et donc, depuis, elle est en demande sur toutes les tribunes. Et puis, alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui veulent la traduire dans leur langue à eux. Et c'est là où il y a de la friction, il y a des impossibilités.
Ben voilà, alors ce poème, disons un mot sur ce que c'est, ce que ça contient. Alors c'est un poème qui s'intitule « The Hill We Climb ». Le poème est inspiré en partie de cette espèce de d'assaut qu'il y avait eu au Capitole américain un peu avant la fermentation de Biden. Et c'est un poème qui se veut rassembleur. C'est un poème qui veut faire tomber des barrières, hein, qui parle de « hill we climb », c'est-à-dire la colline que nous avons gravie. Alors, c'est quelque chose qui se veut rassembleur, c'est quelque chose qui se veut, jusqu'à un certain point, universel. Mais voilà, le traduire semble être justement une colline qu'on ne peut pas gravir et qu'on ne peut pas franchir.
Précisons que Amanda Gorman, je ne crois pas que Amanda Gorman soit une adepte. On a beaucoup de ça chez beaucoup de Noirs états-uniens et on peut le comprendre à la limite, la façon dont ils ont été traités auparavant. Il peut y avoir une tentation de séparatisme noir aux États-Unis. Il y avait eu ça avec Nation of Islam. Je crois qu'ils ont un peu édulcoré leur position. Mais c'est-à-dire qu'on est tellement mal aimé dans la société où l'on vit qu'on va se séparer de cette société, on va vivre entre nous autres. Je ne crois pas que Amanda Gorman, dans ce poème en tout cas, qui est un poème qui invite à l'unité, à bâtir des ponts,
absolument,
à être... donc, elle n'est pas parmi les tenants du séparatisme noir aux États-Unis, a priori.
À lire ces mots, on ne dirait pas, on dirait même l'inverse. Elle est quelqu'un qui veut faire la promotion d'une véritable ouverture, d'un véritable... construire des ponts, comme vous avez dit, gravir des collines, rassembler. On ne croirait pas qu'elle participe à ce qu'on appelle la cancel culture aux États-Unis. Donc, cette culture de tout annuler, comme on a vu avec d'autres figures, des figures de dessin animé qu'on veut évacuer de l'espace public. Alors, ce qui arrive avec le poème The Hill We Climb d'Amanda Gorman, c'est qu'il y a eu deux projets de traduction qui ont fait les manchettes ces derniers temps. Alors, le premier projet Il y a un petit peu plus d'un mois. C'est une personne, une auteure, je ne sais trop comment la dire, parce qu'elle-même, elle se dit comme étant non-binaire et elle utilise cette écriture non-genrée, qui ça aussi fait les manchettes et qui est une toute autre affaire. Donc
elle est hyper vertueuse. D'après les normes contemporaines, elle est hyper vertueuse, hyper qualifiée, avec tout ce que vous dites.
Voilà, alors son nom, c'est Marieke Lukas Ringneveld, j'espère que je le prononce bien. C'est une Néerlandaise qui est née Marieke et qui s'identifie comme Marieke Luca, donc un prénom féminin et un prénom masculin, qui est elle-même militante, qui est elle-même omniprésente dans ces débats-là, qui est loin d'être un deux de pique aussi en littérature parce qu'elle a remporté le Booker Prize en 2020. Alors, c'est une personne qu'on dirait tout à fait qualifiée pour traduire une œuvre comme celle d'Amanda Gorman. Ben, il y a eu un véritable tsunami de protestations.
Ah bon?
Ce n'est pas son manque de talent qu'on lui reproche, mais c'est très exactement le fait de ne pas être noir qui fait que, faisant face à ces pressions, un élan de protestation, elle a elle-même décidé de se retirer du projet en se disant, jusqu'à un certain point, ça ne vaut pas la peine. Elle a dit comprendre les sensibilités des personnes qui ont protesté quant à sa présence dans ce projet de traduction. Mais, bon, elle s'est retirée. Mmh. Alors, deuxième événement qui a fait les manchettes dans l'actualité, c'est cette fois-ci l'écrivain catalan Victor Obiols, un écrivain très connu, très compétent lui aussi, de très grand renom. C'est quelqu'un qui a traduit en catalan William Shakespeare, qui a traduit en catalan Oscar Wilde. Alors, cette fois-ci, Victor Obiols s'est vu remercié. On a dit qu'on lui paierait quand même ses cachets et son travail, mais il s'est fait remercier, s'est fait donc littéralement tasser de ce projet de traduction en catalan.
De la même poétesse noire?
Encore une fois, la traduction du poème « The Hill We Climb » d'Amanda Gorman. Okay,
c'est le même poème à la source, d'accord.
Exactement, le même poème. Alors, il se voit remercié, il se voit écarté, tassé du projet. Et cette fois-ci, on lui a dit, c'est parce que on aurait préféré une personne qui soit d'abord une femme activiste jeune et noire.
Et habillée en jaune aussi, comme lors de la sermentation?
Peut-être.
Mais il faudrait aussi s'habiller en jaune pour ressembler le plus possible à Amanda Gorman.
Probablement que c'est ce qu'on cherchait. Mais il y a un mystère qui plane autour de ce congédiement, parce que cette fois-ci, ce n'est pas Victor Obiols qui a démissionné, comme ça avait été le cas avec Marieke Lukas Ringneveld. Lui, on l'a vraiment congédié, on l'a remercié de ses services. Et le mystère plane parce que Obiols dit « Je ne suis pas en mesure de savoir si la consigne de me remercier ou d'être laissé dans le dallot vient de la maison d'édition ou si elle vient des agents qui représentent les droits d'Amanda Gorman. Mm-hmm. Alors, c'est un mystère qui plane. Mm-hmm. De quoi est-ce qu'on s'indigne quand on fait un petit peu la revue de presse? J'ai fait le tour des médias, autant en Europe qu'aux États-Unis, notamment dans le Washington Post. Alors, ceux qui protestent et qui s'indignent du fait que on aurait confié la mission de traduire Amanda Gorman dans d'autres langues, dans des langues européennes, mais on dit que il y a un risque de trahir l'œuvre d'Amanda Gorman. On dit que ce choix est incompréhensible et on pose la question, est-ce qu'un blanc est capable de rendre justice à la pensée noire? Et là, c'est moi qui rajoute ça, comme si la pensée noire faisait référence à quoi que ce soit. Comme s'il y avait une manière noire de traduire, comme s'il y avait une manière féministe de traduire, comme s'il y avait une manière hétérosexuelle ou bisexuelle de traduire ou de commenter une œuvre littéraire. Pour moi, c'est un non-sens.
Alors justement, venons-en. Vous êtes bibliste, bon, vous avez lu la Bible à l'envers, à l'endroit, évidemment à l'envers avec l'hébreu, forcément, à l'endroit avec le grec, le latin, que vous parlez parfaitement, et en français aussi. Hein?
Je l'ai lu dans les deux sens, c'est ça, de gauche à droite. Oui,
exactement,
de droite à gauche.
Dans les deux sens, je voulais dire. La Bible, déjà, vous avez commencé avec l'exemple de Saint-Luc, qui était l'évangéliste, donc qui était de culture hellénistique, qui était très forte à l'époque au Proche-Orient, et qui fait une histoire, qui raconte l'histoire de Jésus-Christ qui parlait araméen, qui était un juif, qui ne parlait pas grec, je pense. Il y a déjà une... Si on appliquait les critères d'aujourd'hui... avec l'exemple de Amanda Gorman, la poétesse noire états-unienne, ben écoutez, Saint-Luc n'aurait jamais dû écrire son évangile parce qu'il n'était pas de la culture de Jésus. Et on peut, pendant les millénaires suivants, on peut très bien trouver plein d'autres exemples de gens qui ont piqué, qui venaient d'une autre culture et qui ont traduit vers leur culture un texte qui était d'une culture différente. Moi, je pense à toute la philosophie grecque, je pense à l'arabe, je pense à la Rome. Il y a eu tellement d'emprunts, de recrachements, d'adaptations. Enfin, à un moment donné, on peut pas javeliser plus blanc que blanc.
Ben c'est ça, c'est d'essayer de dire que nous serons plus purs que la pureté.
Voilà.
Plus blanc que blanc, comme vous avez dit.
Ou plus noir que noir.
Ou plus noir que noir. Ben oui, ben, les exemples sont tellement nombreux. Platon, par exemple. Platon oui. a d'abord été traduit, une de ses œuvres, hein, une partie du Timée, avait été traduit par Cicéron au 1er siècle avant notre ère. Mm-hmm. Traduit du grec. Au latin. Alors, on a un Athénien qui a écrit en grec, qui traduit en latin par un Romain. Alors déjà, on pourrait parler, on pourrait dire, ben, est-ce qu'un latin comme ça, vivant à Rome au 1er siècle avant notre ère, est capable de traduire Platon sans le trahir? Mm-hmm. Platon a ensuite été traduit en d'autres langues. Il a été retraduit au Moyen Âge en latin. Mm-hmm. On peut parler d'Aristote, c'est encore plus spectaculaire. Hein? Aristote, qui était lui-même un disciple de Platon, donc qui écrit à Athènes en grec. Aristote a été d'abord traduit du grec au syriaque, donc une langue sémitique. Mm-hmm. Du syriaque, il a été traduit en arabe.
Oui.
Et on l'a redécouvert, si je puis le dire ainsi, en Occident, grâce à ces traductions arabes qui ont passé par la culture andalouse, donc par l'Espagne, qui ont été retraduits en latin par Guillaume de Merbeck, un dominicain au 13e siècle.
Est-ce qu'on a traduit Aristote directement du grec à un moment donné?
Oui, de Merbeck a traduit une partie via l'arabe, une partie via du grec, effectivement. Ah. Oui, c'est un très grand érudit, un très grand traducteur. Et c'est ce qui a fait que Thomas d'Aquin, par exemple, a pu commenter l'œuvre d'Aristote en latin. Les traités De Anima, De Cello sur le ciel. Alors, on a connu... D'abord, en Occident, Aristote, à travers toute cette filière-là, on est passé d'une langue à l'autre. C'est la même chose, mentionnons le philosophe musulman Averroès, qui écrit en arabe, traduit en latin, ce qui permet à Thomas d'Aquin de le citer, et ce qui a permis aussi au développement d'un courant philosophique en Occident, qu'on a appelé l'avéroïsme latin. Bon, c'est un courant qui a été ensuite condamné en 1270 et 1277. Mais c'est un courant philosophique. Il y a des grandes figures comme Sigit Brabant qui ont appartenu à ce courant philosophique-là d'avéroïsme latin. Alors, on a traduit des œuvres d'une autre culture, d'une autre langue, en latin, qui les a fait connaître, qui a suscité tout un mouvement intellectuel, un mouvement philosophique. Alors, imaginons si on avait appliqué les mêmes règles que cette cancel culture-là, aujourd'hui, veut nous imposer. Ben, on aurait dit, non, ben, Averroès, c'est absolument hors de question. qu'un dominicain du 13e siècle puisse le traduire et le commenter.
À la limite, pardonnez-moi, mais sache qu'à la limite, Jésus et sa bande seraient restés une petite secte juive s'il n'y avait pas eu saint Paul, s'il n'y avait pas eu tout l'hellénisme, s'il n'y avait pas eu toute cette ouverture.
S'il n'y avait pas eu saint Jérôme, exactement.
Saint Jérôme, je veux dire.
C'est ça, pour le traduire en latin. S'il n'y avait pas eu saint Augustin, pensons à Augustin qui a commenté lui aussi le Nouveau Testament, qui a construit toute une théologie. Alors, Augustin, c'est un Nord-Africain, hein, qui venait d'Hippone.
Oui, il était berbère, je pense.
Ben oui, voilà. Alors, si on disait que quelqu'un d'une autre culture ne peut pas traduire ou commenter, ben, la Bible, le christianisme n'existe plus. On ne peut plus commenter les évangiles, encore moins de nos jours, au 21e siècle, disait qu'on commente les évangiles avec toute la distance qu'il y a, la différence de langue, les évangiles qui nous ont été transmis en grec ancien. Commenter ça aujourd'hui, ben, ça devient un non-sens. On ne peut plus le faire parce que il faut être de la même origine ethnique que les auteurs, il faut avoir la même orientation sexuelle que les auteurs, il faut avoir le même genre que les auteurs. Mais finalement, il n'y a plus personne qui ne peut commenter ou traduire quelque œuvre que ce soit.
Alors, moi j'ai la solution, Serge Cazelet. Il faut être omnisexuel, métissé, mais métissé rare, hein, au 16e degré, avec un peu de tout, non-binaire, végétalien à l'occasion carnivore. Qu'est-ce qu'il faut être? Il faut être également... Ben, si on prend un peu de tous les groupes humains, on fait l'être humain qui, lui, peut y être universellement valable, compréhensif, et lui peut traduire tout le monde. Mais autrement, prenez l'exemple, les évangiles ont été écrits par des hommes. Donc,
ben voilà.
Si on prend ce raisonnement à bout, si on le pousse à sa limite, l'histoire que seul un noir peut traduire une poétesse noire, une femme noire peut traduire une poétesse noire aux États-Unis, donc l'exégèse féministe tombe à l'eau, parce que ce sont des femmes qui vont se prononcer sur des textes écrits par des hommes. Déjà, ça annule l'argument.
Ça nous l'argument où ça nous mène dans un cul-de-sac, où ça nous mène dans une espèce de contradiction intérieure, une contradiction logique qui fait en sorte que, ben voilà, une femme ne pourrait plus proposer une exégèse biblique, ne pourrait plus faire de théologie. Donc, c'est exactement les arguments qu'ont certains religieux. On utilise ces arguments-là pour exclure les femmes. Puis je me permets ici, si vous permettez, je vais citer Thomas Chatterton Williams, hein, qui est un auteur. Bon, c'est un auteur américain installé en France. Il lui-même, c'est un collaborateur aussi au Times à New York. Il est lui-même fils d'une mère blanche et d'un père noir. Alors, et il explique dans son livre, hein, Autoportrait en noir et blanc, son livre est même évoqué et il est l'objet d'un article dans Le Devoir du 13 mars dernier. Autoportrait en noir et blanc, il explique que lui, il s'est toujours vu comme appartenant à cette culture noire, mais il a comme eu une autre perspective la journée où sa fille est née, parce que lui-même, il a épousé une femme blanche, une Française. Et sa fille, ben, naturellement, elle est blanche. Alors, ce qu'il soulève, entre autres, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Hein. On dit, ben, puisque le Nouveau Testament a été écrit par des hommes, ben, si on pousse à sa limite l'argument de la cancel culture, qui dit ben, seulement des hommes peuvent commenter ça et les femmes ne peuvent plus les commenter. Et c'est l'argument que les religieux, que certains religieux très conservateurs ont pour exclure les femmes d'un certain espace religieux. Ben, lui, il dit la même chose. Il dit si on pousse cette logique-là, qu'il y aurait une pensée noire, qu'il y aurait des manières, là je le cite, hein, que les Noirs auraient des manières différentes de penser et d'apprendre, ben, c'est exactement ce qu'ont toujours dit les racistes. Alors, on dit, ben,
donc on est à la...
La cancel culture est en train de reprendre des arguments qui sont mis de l'avant par les racistes. Et ce sont ces arguments-là qu'on met de l'avant.
En 30 secondes, Serge.
Oui.
Si je vous comprends bien, un exclu ne peut qu'exclure celui qui l'a exclu.
Ben, C'est à peu près ça.
Je résume à l'extrême.
C'est ça. Et plutôt que de se dire, ben, revenons au poème d'Amanda Garman, The Hill We Climbed.
Oui, on a oublié d'en parler.
Oui! Si on revient à ça, ben, en fait, nous n'avons fait que ne parler de ça. C'est un poème qui se voulait une ouverture, qui nous invitait à gravir des montagnes, à faire tomber des barrières. Mais avec toute...
On a plutôt descendu des ravins ici.
Cette volonté de traduire
ici.
Son poème, on est en train de remettre les barrières.
Oui, oui.
Donc, on est en train de
trahir
le poème. Oui.
Vous êtes bibliste et historien des religions. On vous retrouve dans deux semaines. Merci beaucoup, Serge. À venir sur les ondes de la Radio VM, l'éthique doit-elle s'ingérer? On vous revient après la pause publicitaire.